une électricité moins chère tout en restant verte. Sauf que pour elle, vert, ça rime toujours avec cher. Mais sachez, Liliane, qu'avec l'offre ELEC référence 1 an d'Engie, en ce moment, le prix du kilowattheure est 14% moins cher en moyenne que le tarif réglementé. Et en plus, c'est de l'électricité verte. Eh oui, car vert, ça peut aussi rimer avec moins cher. N'est-ce pas, Liliane? Appelez le 3101, service et appel gratuit. Voir conditions de l'offre et du comparatif de prix sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Il est généreux dans l'expression de ses colères.
Un peu soupolé, un peu colérique.
Espèce de vermicelle !
Il râle souvent quand même.
Il est généreux dans sa capacité à absorber un certain nombre de liquides.
Alcoolique et oral.
Oh, les bordels !
Et il est généreux en amitié.
C'est un personnage sur lequel on peut compter. Voilà, il est loyal à Doc.
Premier épisode. Pourquoi aime-t-on ce marin bougon ?
Et maintenant, allons voir l'heureux homme qui se nomme Hergé et qui signe depuis 30 ans les albums Tintin et Milou. Nous revoici donc en Belgique, dans ce pays de Brabant à l'horizon faiblement ondulé. Ferme ou château, la maison d'Hergé tient des deux. La pelouse et les roses du parc forment un si beau décor que Hergé lui-même nous invite à nous installer en plein air.
Pourquoi, à ce qui était à l'origine un duo, c'est-à-dire Tintin et Milou, vous avez adjoint le célèbre capitaine Haddock pour en faire donc un trio?
Oui, ben, écoutez, il n'y a pas de raison préconçue, je n'y ai pas songé. Dans une histoire a surgi ce capitaine Haddock.
Je vous soupçonne de chérir particulièrement ce capitaine Haddock.
Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il me paraît très sympathique. Il est violent, il est spontané, il est colérique, bien sûr, mais il est courageux, il a bon cœur et mauvais caractère.
Qui est là ?
Ah, pardon, monsieur Ouf.
Qui êtes-vous ?
Taisez-vous. Pas un cri, ne bougez pas, je suis armé.
Je suis le capitaine, jeune homme. Mon nom est Haddock. Et je vous permets pas.
Bon, alors moi je m'appelle Tintin. Je suis reporter et j'ai été embarqué de force sur ce maudit cargo.
Comment, maudit cargo? Mais tonnerre de bref, je vais vous apprendre. Et d'abord, en tant que capitaine, je vais vous faire mettre au fer.
Au fer, eh bien pour ça, nous verrons plus tard.
Benoît Peters, j'aimerais tout d'abord qu'on revienne sur les origines du capitaine Haddock.
Nous ne connaissons pas grand-chose de la jeunesse du capitaine Haddock. Nous ne savons pas énormément ce qu'il a fait. Il y a des allusions dans l'Étoile mystérieuse à une période avec le capitaine Chester, où il était sans doute un marin responsable. Mais quand Tintin le rencontre, c'est un personnage pitoyable. C'est une épave malmené par son équipage et son lieutenant qui le font boire et qui maîtrise absolument le navire en l'utilisant pour du trafic de drogue. La rencontre de Haddock et Tintin est complètement sidérante. Tintin est à fond de cale, il réussit à s'échapper, il lance une planche avec une corde, cette planche assomme à moitié le capitaine. On pourrait imaginer des entrées en matière plus sympathiques. Et pourtant, de ce choc, de cette collision entre les deux personnages, va naître très très vite une amitié.
Je bois beaucoup trop, jusqu'à la lit.
Écoutez-moi, capitaine, si vous voulez, moi je vais vous aider.
Vraiment ?
Oui, enfin, j'essaierai. Mais d'abord, vous allez me promettre de ne plus boire. Plus de whisky, du moins. Songez à votre dignité d'homme. L'alcool, c'est la déchéance physique et morale, la misère, le désespoir. Que dirait votre vieille mère si elle vous voyait dans cet état, hein ?
Et le capitaine Haddock, oui, malgré son état, va très vite lui faire confiance. Mieux que cela, Tintin révèle le capitaine à lui-même par une phrase magique, vraiment comme un psychanalyste de génie, quand il lui dit « Mais pensez à ce que dirait votre vieille mère ». Et ça déclenche une crise de larmes instantanée, maman, maman, etc. Et on a l'impression que là, Tintin a appuyé sur le bon bouton. Et donc c'est une inversion un peu du rapport père-fils. Parce que par l'âge, Haddock devrait être le père de Tintin, mais en réalité dans tout l'album Le Crabe aux Pinces d'Or, qui est l'album de la régénération, du début de régénération du capitaine, le rapport est inversé.
Qu'est-ce qu'elle dirait, votre pauvre maman, hein ? Qu'est-ce qu'elle dirait ?
Oh, mon maman ! C'est affreux ! Non, non !
Albert Algout, on est ici parce que Il faut faire la chronologie, la généalogie du capitaine Haddock. Je n'y comprends rien.
Moi non plus. Moi non plus, parce que c'est une généalogie complexe. Dans le secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge, il y a un personnage très important qui est François de Haddock. Donc Haddock s'écrivant H-A-D-O-Q-U-E, c'est-à-dire à la française. Donc quelque part, on peut dire que le nom a été peut-être d'abord anglais, ensuite a été francisé à un certain moment de l'histoire, pour redevenir anglais à un autre moment.
Jean-Claude Chemin, on connaît la mère de Haddock. Mais il a un ancêtre célèbre, le chevalier de Haddock, un Français.
Chevalier de Haddock, qui a servi dans la marine royale de Louis XIV, qui a si bien servi que le roi lui a fait don d'un château en 1664. À l'époque, en Angleterre, on a un amiral, Richard Haddock, né en 1629, mort en 1714, donc contemporain du chevalier.
Alors, il y a un tintinologue qui s'appelle Henri Plard. Pour lui, Haddock, le chevalier de Haddock, aurait eu un père anglais noble qui se serait exilé en France en 1650 en francisant son nom. Pourquoi ? Parce qu'il avait servi les Stuarts, qui ensuite étaient maudits en Angleterre. Donc, il a trahi la couronne anglaise pour venir servir le roi de France. Donc, il aurait eu un fils, Francis, qui aurait francisé son nom, c'est le cas de le dire, en François de Haddock. Donc il choisit la royale, la marine de guerre, et c'est le François de Haddock qu'on voit à l'œuvre dans le trésor de Rackham le Rouge et qui est évoqué dans le secret de la licorne.
Donc, ils sont partis depuis 2 jours. Et ce matin-là, par bonne brise, la licorne vogue grand largue, tribord à mur, lorsque soudain de la hune tombe un cri.
Capitaine, une voile à bâbord.
Voyons ça. Sur le vent au plus près, ce particulier. 1000 sabords ! Que le grand cric me croque s'il n'a pas l'intention de nous couper la route.
Alors, les indices qui iraient dans le sens de ses origines anglaises, il y en a plusieurs. C'est le rhum. Le rhum était absolument ignoré par les marins de la Royale en France. Ils buvaient du pinard. Ensuite, les pièces d'artillerie. Les pièces d'artillerie du navire La Licorne ressemblent étrangement aux pièces d'artillerie anglaises de la même époque et pas du tout aux pièces d'artillerie françaises. Il y a aussi le cri « Hourra !». À un moment, le capitaine Haddock, quand il fait exploser le navire La Licorne, il pousse ce cri « Hourra !». Or, le cri « Hourra !» était totalement ignoré par les marins de la Royale. Et en revanche, c'était un cri qui était poussé par les marins pour saluer leurs officiers dans la marine anglaise. Donc. Mais moi, je m'oppose à cette théorie. Dans la marine anglaise, tous les officiers étaient tatoués. Le tatouage, qui est aujourd'hui à la mode en France, ne l'était pas du tout dans des temps plus reculés, et encore moins dans la marine, aussi surprenant que ça puisse paraître. C'est en usage chez les bagnards. Dans la marine, ça s'est un petit peu répandu après, mais au XVIIe et au XVIIIe siècle, le tatouage était totalement ignoré, alors qu'il était très très présent dans la marine anglaise. Et lorsqu'on voit le capitaine Haddock en Marseille, quand il crève de chaud dans le désert, dans le crabe aux pinces d'or, si vous observez ses épaules, ses bras, etc., il n'y a aucun tatouage. Pour moi, ce n'est pas un marin anglais.
Monte sur le pont. À ravirer. Serrez le vent. À ravirer. Serrez le vent.
Je m'appelle Vincent Guignot et nous sommes à l'Académie de Marine, donc dans l'hôtel de la Marine, rue Royale.
Un lieu idéal pour évoquer un grand marin.
Ah bah oui, l'Académie de Marine a pour vocation de soutenir, de faire avancer la cause de la France maritime. Et clairement, le capitaine Haddock fait partie du panthéon des grands marins qu'on aime évoquer ici à l'Académie.
Qui est François de Haddock ?
Alors François de Haddock est un capitaine de la Royale qui est attaqué par Rackham le Rouge, qui arrive à s'échapper, à faire sauter le bateau de Rackham et qui échoue dans cette île qui est l'objet de la quête du trésor de Rackham le Rouge.
François de Haddock est un marin de Louis XIV.
On sait à travers les documents que Hergé a mobilisés pour inventer cet univers, qu'il a puisé dans cette marine, dans la constitution de cette marine royale. Alors ça commence avant Louis XIV, mais Haddock est un chevalier de la royale, alors que son descendant, lui, n'est qu'officier de marine marchande. Mais il y a aussi ce lien entre ces deux marines qui s'établit entre Haddock et son ancêtre.
Haddock, dont
nous allons évoquer la carrière, et donc un capitaine de la marine marchande, un capitaine au long cours.
C'est un capitaine qui manifestement a tous les brevets pour commander des cargos, pour commander des navires de recherche scientifique. Il a sans doute tous ses brevets, et c'est ce qu'on appelait un capitaine au long cours. Oui.
L'origine du nom de Haddock peut être tout à fait anecdotique. Hergé était, à cette époque-là, vers 1940, dans une grande proximité intellectuelle et ludique et humoristique avec sa femme, Germaine, qui s'éloignera beaucoup plus tard. Et donc, elle était sa première collaboratrice, ils discutaient, puis un jour, elle lui sert sous l'occupation du Haddock. Et elle me dit, voilà le nom de ton capitaine.
On est matelot, on est toujours sur l'eau, on visite le monde, c'est le métier le plus beau. Du pôle sud au pôle nord, dans chaque petit port, plus d'une fille blonde nous garde ses trésors. Pas besoin de pognon.
Albert Algou, Haddock, aurait une parenté avec un certain capitaine Craddock?
Le capitaine Craddock, c'est une comédie musicale ou un spectacle musical créé en Allemagne par les comédiennes harmonistes, dont le tube était Les gars de la marine. C'est nous, les gars de la marine, qui est chanté par le capitaine Haddock et Tintin à un moment quand ils sont tous les deux totalement bourrés, je crois, et il me semble que c'est dans le crabe aux pinces d'or. Peut-être Hergé s'est-il inspiré de... Parce que ça coïncide, hein, ça a été un grand succès, hein, c'était un succès en Allemagne, mais en France, les gars de la marine, c'était un tube, vraiment, qui passait sur les radios, plus capitaine Craddock, on est proche du capitaine Haddock, quoi.
À peine le temps de se plaire et de se dire adieu. On a peu de chagrin, ça passe comme un grain. Les plaisirs de la terre, c'est pas pour les marins. Nous n'avons pas le
capitaine Haddock est donc un capitaine de la marine marchande. Il n'aime pas qu'on le dise marin-pêcheur, mais il n'aime pas non plus qu'on le parle de lui comme d'un commodore. Il rectifie en disant capitaine.
Je pense qu'il tient à son autorité, parce que quand il recouvre un peu de dignité humaine et qu'il sort d'un alcoolisme profond, qu'il échappe quand même au délirium très mince, c'est un très très bon marin, quoi. C'est un marin, non seulement c'est un bon navigateur, mais c'est un marin solidaire, puisque dans l'Étoile mystérieuse, lorsqu'ils reçoivent un appel de détresse, il dit « il faut partir au secours de ces malheureux ». Donc il y a quand même beaucoup d'humanité aussi chez lui, beaucoup d'humanité.
En tant que marin, le capitaine Haddock a essuyé des coups de tabac?
Ah, il a essuyé des coups de tabac et dans la tempête, il garde un calme extraordinaire. Notamment dans l'Étoile mystérieuse, alors que le navire est secoué de toutes parts, que tous les membres de l'expédition sont en train de gerber dans leur cabine, on les voit tout verts. Haddock, lui, il est absolument imperturbable à la barre sur le pont. Donc oui, très 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 bon marin, là encore, oui.
Il connut bien des aventures du pôle sud à Vladivostok. Sur son bateau dont la voilure claquait gaiement de poupe en phoque. Dans les tempêtes les plus dures, il reste ferme comme un roc.
Oui, Doc.
Mais quand s'assombrit sa figure, tout sur le pont, égare au choc.
En quoi le capitaine Haddock est un archétype des gens de mer?
Déjà dans son langage, quand on côtoie des marins de la marine marchande, bah ils ont quand même une manière de s'exprimer à eux. Donc ça s'incarne à travers les fameux jurons du capitaine Haddock. Il y a quand même une langue particulière, une langue à la fois technique et aussi un peu fleurie, hein, les fameux jurons. Est-ce que le rapport à la boisson aussi, hein, comme dit le capitaine Haddock, hein, l'alcool, l'ennemi du marin, on sait comment l'abri du marin, toute une série de fondations ont lutté contre l'alcoolisme dans les ports. Donc Haddock a un rapport compliqué. Même Milou devient alcoolique à son contact, c'est quand même quelque chose. Et puis ce personnage qui, oui, renaît, revit, s'épanouit quand il est dans son élément, qu'il commande, et il retrouve son rôle de capitaine barbu, la casquette. Je vis à Dunkerque, je suis parti de la station de sauvetage à Dunkerque. Bon, on rencontre des gens de mer. Et oui, Haddock fait partie de la famille, c'est incontestable.
Si Tintin l'aime comme un frère, valve qu'il soit un peu loufoque. C'est parce qu'il est à sa manière, fidèle comme le chien de Saint-Roch.
Comment est-ce que vous avez inventé le capitaine Haddock?
Hergé, 1964.
Ça se passait dans le crabe aux pinces d'or, je ne sais plus dans quelle année exactement, ça devait se passer en 39, 40 peut-être, 41 peut-être. Alors j'avais besoin d'un capitaine, d'un capitaine de bateau, d'un capitaine ivrogne. Et il n'était d'abord qu'ivrogne, uniquement. Et il buvait vraiment beaucoup. C'était beaucoup. Mais enfin, grâce à l'influence de Tintin, je crois que c'est Tintin qui a eu une heureuse influence sur lui, il s'est modéré. Et s'il prend encore plaisir à boire un verre ou deux whisky ou deux ou trois même, il ne tombe plus dans des excès comme ceux dans lesquels il tombait auparavant.
Et quand est-ce qu'il a inventé de proférer tous ces jurons monstrueux?
Déjà dans Le Crabe aux pinces d'or, c'est là qu'il commence à proférer ces jurons, mais qui ne sont nullement monstrueux comme vous dites. Ce sont des mots qui ont une certaine sonorité, comme ectoplasme, je ne sais, ou moule à gaufre, mais qui ne constituent pas en soi des injures. En alphabet, si je vous le concède, c'est une injure.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de lui faire proférer des jurons comme ça, justement?
Eh bien, il y avait à ce moment-là, je ne sais quel événement politique, enfin, quel pacte, quelle association politique internationale qui portait le nom de pacte à quatre. C'est un pacte de non-agression, que je ne sais. Et j'ai un jour entendu une marchande des quatre saisons lancée à une cliente qui avait probablement discuté des prix avec elle et avec laquelle elle n'était pas d'accord, lancée à la tête de cette cliente un « Dites donc, vous, espèce de pacte à quatre !» J'ai trouvé ça merveilleux de sonorité. Je m'en suis servi alors par après pour donner un vocabulaire plus étendu au capitaine Haddock et employer là-dedans des mots donc qui n'étaient pas des injures mais qui avaient une sonorité qui pouvait passer... Il disait qu'il pouvait passer pour tel.
Pour 1 000 000 000 de sabords de tonnerre de Brest, colporte, protozoaire, vivisectionniste.
Albert Algou, le capitaine Haddock, c'est aussi tout un monde de jurons.
Oui, Haddock, c'est un homme du lexique. Il a un lexique d'une richesse extraordinaire qu'il exprime surtout quand il vitupère, quand il insulte des gens. Donc les jurons du capitaine Haddock, 220 et quelques, mais avec les espèces de bougres de, etc., on monte à 400 et quelques.
Un alphabet, anthropophage, des injures, il a tout un stock.
Oui, de la flotte.
Pachibouzou, forban, sauvage, ma foi tant pis, si ça vous choque.
Mes jurons préférés du capitaine Haddock, qui me viennent comme ça à l'esprit, Oryctérop, Moulagouf, bien sûr, Crétin des Alpes, comme j'ai été prof en Haute-Savoie, j'ai redécouvert cette insulte à ce moment-là. Dictateur à la graisse de hérisson, qui s'adresse à Tapioca, qui a kidnappé la Castafiore. Catacrèze, Sapajou, Morico, vous voyez, ça me revient. Bachibouzouk, bah, comme tout le monde.
Parmi les jurons du capitaine Haddock, 1000 sabords, démultipliés, 1 000 000 000 de 1 000 000 000 de 1000 sabords, il y a le fameux
« tonnerre de Brest ».
Et le tonnerre de Brest serait lié au fait qu'à Brest, à l'époque où le Magne était à Brest, on tirait le canon quand un des bagnards s'était échappé pour alerter la population et inviter la population à ramener le fugitif, sachant qu'à la clé, il y avait une récompense. Or, l'ouverture du Magne de Brest est postérieure à l'existence du chevalier de Haddock. Lequel chevalier emploie ce juron, tonnerre de Brest? Donc il y a quelque chose là qui va pas, quoi.
Mais moi, celui que je préfère, c'est quand même Moule à gaufre. Je sais pas pourquoi, peut-être à cause du bureau des légendes depuis, où vous savez qu'ils ont repris pour les noms de code des agents français des jurons du capitaine Haddock.
Les trépédances, les ostrogons, les scolabandres, les bêches du bonjour.
C'est un lexique d'une grande variété, puisqu'il emprunte à la zoologie, à l'histoire, à la géographie, à la rhétorique, à catacrèse, à la science, à l'occultisme, ectoplasme, à la zoologie, hein, sapajou, etc. Alors, il y a une polémique qui disait que ça lui était inspiré par des jurons proférés dans l'œuvre de Céline. Il est vrai que via un de ses co-scénaristes, Van Melkebeck était un littéraire. Et donc, je pense qu'il a fait découvrir Céline à Hergé. Mais c'est aussi une tradition belge. Hein, le peintre Ensor, qui était aussi un formidable écrivain, c'est à pissait de rire les bordées de jurons de James Ensor. J'ai découvert ça après. Hein. Et je me suis dit, il y a une tradition belge, tradition de la marine aussi, parce que les jurons, il y a des dictionnaires de jurons de marins. On retrouve certains jurons du capitaine Haddock. Donc, limiter l'origine des jurons du capitaine Haddock à l'euro de Céline, c'est une interprétation, je trouve, orientée et restrictive ou réductrice.
Bon cœur et mauvais caractère, aimant le whisky et le bon grog. C'est un rude gaillard, mille tonnerres, le brave capitaine Haddock.
Albert Algou, Haddock est alcoolique. Il aime tous les alcools.
Haddock a un penchant pour beaucoup d'alcool. Comme beaucoup d'alcooliques, il serait prêt à boire presque de l'eau de Cologne à certains moments. C'est-à-dire, on peut dire oui qu'il aime tous les alcools, mais avec des préférences, un penchant pour le rhum, le whisky, mais il ne crache pas ou il ne postillonne pas sur l'aguardiente, il ne crache pas sur l'Apremont, le vin suisse, il ne crache pas sur le Porto, la bière aussi, Haddock.
Il goûte au champagne, le vin portugais, le pisco, le gin. Et quand il est à Moulinsart, il va même jusqu'au cocktail.
J'ai toujours pensé que l'enfer, c'était ça. Un pays surchauffé, brûlant, et où on n'aurait rien à boire. Des diables s'amuseraient à vous passer des whisky glacés sous le nez. De quoi devenir fou.
Haddock a beaucoup contribué à faire connaître le Loch Lomond, le whisky écossais, avant même d'ailleurs que le Loch Lomond existe, puisque, enfin, selon mes recherches, mais... La distillerie, le Loch Lomond, a été créée en 1966.
L'alcool, je le déclare tout net, c'est l'ennemi numéro un du marin. Parfaitement. Et moi, Haddock, je ne bois que de l'eau.
Une des choses qui me frappe et qui m'épate, c'est quand même que dans une série destinée prioritairement aux enfants, Hergé ait pu donner une représentation de l'alcool et de l'alcoolisme aussi forte, aussi précise, aussi crédible et par certains côtés aussi terrifiante. Souvenons-nous des cauchemars de Tintin, où véritablement on voit le delirium tremens à l'œuvre chez Haddock. Or, on était là dans les années 40 avec une idée relativement conservatrice. Personne n'a protesté. Par contre, je me souviens que quand il a été question de faire les dessins animés de Tintin dans les années, enfin, fin des années 80, un comité d'éthique s'était mis en place et avait décidé que l'alcoolisme du capitaine Haddock était absolument anti-éducatif et impossible. Et alors, on m'avait consulté, j'avais écrit une petite note en disant, mais je vous propose de rédiger un projet d'adaptation du crabe aux pinces d'or en enlevant l'alcool. Et on verra ce qui restera d'histoire. Et l'alcoolisme du capitaine Haddock a été sauvé. Je crois qu'il y a chez Hergé une confiance dans les enfants. Les aventures de Tintin et le capitaine Haddock en particulier sont vraiment une école de la vie, c'est-à-dire une confrontation à des réalités parfois dures, mais que le dessin d'Hergé, que son humour, que sa manière de conduire une aventure rendent acceptable.
Renaud Nattier, le capitaine Haddock, c'est un grand dépressif.
Oui, oui, certainement. Hein. Il a des moments, d'ailleurs, dans les sept boules de cristal, on le voit physiquement. Nestor lui dit, oui, le capitaine a vieilli 10 ans parce que Tournesol a été enlevé. Hein, et il est, on le voit d'ailleurs physiquement, hein, au fond de son fauteuil. Là, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, mais et puis son alcoolisme, quand même, est certainement un symptôme de dépression. De temps en temps, il a le secours un petit peu du whisky pour le remettre en forme.
Haddock a des côtés dépressifs. Il est tenté par l'inaction, et puis soit par... C'est pas tellement la morale qui le pousse à agir, c'est la camaraderie, c'est l'amitié qu'il a pour Tintin. Et des pulsions déraisonnables. Il n'est pas raisonnable, et ça le rend très très sympathique. Mais il ne sombre pas dans la folie, sauf au départ. Alors c'est un des grands paradoxes de personnage aussi, c'est que les aventures de Tintin paraissaient donc dans le XXe siècle. C'était un journal ultra-catho, réactionnaire, avec un curé fasciste qui en était le rédacteur longtemps avant d'être viré. Même, il avait le portrait de Mussolini sur son bureau, etc. Il faut penser qu'Hergé, il a grandi là-dedans, quoi, sous la houlette de ce curé de choc. Donc, dans un journal ultra-réactionnaire et catho, apparaît un personnage qui, par certains côtés, est totalement amoral. C'est-à-dire, au départ, c'est un alcoolique fini. Quand il apparaît, il est d'une violence extrême. Il tente d'assassiner Tintin quand même à plusieurs reprises. Soit en foutant le feu à la barque dans laquelle il dérive, en l'assommant à coups de bouteille alors qu'il pilote l'avion, et en l'étrant. Et bon, Tintin, traumatisé par tout ça, fait un cauchemar où Haddock est en train de l'étrangler, quoi. Et veut lui percer la tête avec un tire-bouchon en prenant sa tête pour un bouchon de vin de Bourgogne, quoi. Ce qui est incroyable, quoi.
Pour Haddock, vivre au quotidien n'est pas toujours facile. Et s'il a renoncé à la boisson, ou s'il a ramené l'alcool à des proportions à peu près raisonnables, ça a fait remonter chez lui un tempérament blessé, fragile, neurasthénique, bipolaire, on peut choisir les mots. Et là aussi, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Hergé chez lui. Hergé, socialement, est un être extrêmement drôle. C'est un créateur vif, qui tire parti de toutes les situations. Mais il y a chez lui un tempérament extrêmement sombre qu'on sent dans les périodes de dépression, dans les lettres qu'il écrit, dans les moments où, peu après la guerre, il songe à arrêter Tintin. Et il a vraiment donné ce tempérament quelque peu bipolaire, il l'a donné à Haddock, et d'où son attachement aussi au personnage. C'est le personnage à travers lequel il peut laisser passer des blessures intimes, alors que Tintin est héroïque. Tintin, ça sera toujours le droit fil de l'aventure, qui avance, qui veut que les choses progressent, qui veut faire le bien, et Haddock, c'est celui qui nous dit que c'est pas si facile, que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et qu'on a beau faire, on est parfois rattrapé par des situations qui nous dépassent. Donc il y a là une part d'humanité, de faillibilité, de maturité, qui n'était pas dans les premiers Tintins. Le premier Tintin, c'est vraiment un petit gars bagarreur et rempli de certitudes, y compris de certitudes politiques. Haddock, il est jamais dans les certitudes, et je crois que le Hergé de la maturité, le Hergé grand créateur, n'est pas non plus dans les certitudes.
C'était à la poursuite d'Archibald Haddock. Pourquoi aime-t-on ce marin bougon ? Avec Albert Algou, auteur du dictionnaire amoureux de Tintin, Jean-Claude Chemin, de l'association Les Sept Soleils à Saint-Nazaire, Vincent Guignot, historien, membre de l'Académie de Marine, Renaud Nattier, auteur de « Faut-il brûler Tintin ?», Benoît Peters, essayiste, biographe d'Hergé. Extrait du feuilleton radiophonique « Les aventures de Tintin » d'après Hergé, adaptation Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisation Jean-Jacques Vierne. Archives INA et Radio-Canada. Coordination Christine Bernard. Attaché de production Sylvia Favre. Un documentaire d'Yves Aumont et François Test.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
L'actualité vue par France Culture avec des intellectuels, des experts et des artistes.
Guillaume Erner.
Ce sont les matins de 6h30 à 9h.
Les matins de France Culture. Du lundi au vendredi à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture.
La radiodiffusion télévision française présente
À la poursuite d'Archibald Haddock.
Haddock
par Yves Aumont et François Test.
Allô ? Oui ?
La boucherie sans eau ?
Mais non, c'est le capitaine Haddock. Ah, qui est
là ? Allô ? La boucherie sans eau ?
Mais qui est au bout du fil ? Allô ? Allô ? Il a raccroché. Cet Olibrius parlait comme un patagon. Allô, allô.
Deuxième épisode.
Allô.
Cap sur le château de Moulinsart.
La Terre appelle fusée lunaire.
On sait que Hergé
prenait la pause.
Benoît Peters.
Pour les personnages, demandait à un de ses collaborateurs, généralement Bob de Mort, de faire le croquis. Et il adorait prendre la pause pour Haddock. Et il sait très bien que comment Haddock va décrocher un téléphone, comment Haddock va claquer une porte trop brutalement, descendre un escalier. Ce sont des attitudes qu'Hergé joue. Il a fait un peu de théâtre dans sa jeunesse. Et je crois qu'il ne joue pas Tintin comme il joue Haddock. Il comprend particulièrement bien la gestuelle. Et c'est intéressant de penser que Hergé trouvait plus important de prendre la pause que de faire le croquis.
Janvier 1929. Hergé, auteur de bande dessinée, crée le célèbre reporter Tintin. 13 ans plus tard, il crédite l'un de ses nouveaux héros, le capitaine Haddock, d'un ancêtre, le chevalier François de Haddock, capitaine d'un vaisseau de la marine royale française, la Licorne. Comme le voulait l'usage au XVIIe siècle, le chevalier se voit offrir par son roi Louis XIV le domaine et le château de Moulinsart. Après bien des péripéties, son descendant fait l'acquisition de cette propriété qui devient, en 1943, le port d'attache du capitaine lui-même, de Tintin et Milou, du professeur Tournesol, de Nestor, l'indéfectible majordome, sans parler des visiteurs occasionnels et parfois inopportuns. Pour l'architecture, Hergé s'est directement inspiré de l'un des plus prestigieux châteaux de la Loire, le château de Cheverny.
Autant Tintin, pendant longtemps, nous donne le sentiment d'être un personnage dégagé du temps, une sorte de personnage inaltérable, même si son évolution se fait par petites touches, autant Haddock ressemble à un personnage romanesque. On peut reconstituer des bribes de son passé, mais surtout, on va le voir évoluer d'album en album, de manière très très forte et avec des périodes. Donc il y a une sorte de biographie du capitaine Haddock, même si nous ne le voyons pas vieillir. Le capitaine Haddock ne prend pas d'âge, sa barbe ne blanchit pas, mais par petites touches, nous le voyons évoluer. Bon, ben d'abord, on sait qu'à la fin du Crabaud d'Or, il prononce une causerie à la radio sur l'alcool ennemi du marin, lui qui était vraiment la victime. On n'a pas vu passer par les alcooliques anonymes, Tintin a suffi à sa rédemption. Alors il rechute un petit peu, puisque dans la scène, Hergé n'oublie jamais d'être drôle, dans la fameuse scène, on doit interrompre la rediffusion radiophonique, puisque le capitaine Haddock s'est trouvé mal après avoir bu un verre d'eau. Et puis, il va se découvrir un passé avec son ancêtre, le chevalier François de Haddock, auquel il s'identifie. Et là, il prend une épaisseur, alors vraiment une épaisseur romanesque, puisque non seulement il a eu une jeunesse qu'on entrevoit, mais une histoire familiale. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que Haddock va entrer dans l'âge de Moulinsart, c'est-à-dire que ce bourlingueur éternel ne va plus beaucoup passer de temps sur les bateaux, à renoncer à son métier. Il devient une sorte de gentleman farmer, plus que de châtelain, même s'il a au début des sept boules de cristal sa petite période snob, où on le voit avec un monocle et s'essayer à monter à cheval. Bon, Nestor qui dit délicieusement le capitaine ne va pas tarder, voici déjà son cheval. Bon, c'est formidable, on comprend qu'il a chuté. C'était un personnage qui va aussi avoir beaucoup d'humeur et des variations de tempérament, comme Hergé. Quand Tournesol est enlevé dans les sept boules de cristal, Haddock plonge dans une dépression noire, devient presque incapable d'agir, et ça coïncide exactement avec la période où Hergé, vers 1946-47-48, plonge lui-même dans la dépression. Donc on sent très bien que ces variations romanesques, cette histoire d'un personnage de plus en plus casanier, etc., ressemble beaucoup à l'évolution d'Hergé et qui se projette à partir de la quarantaine, il se projette dans Haddock beaucoup plus que dans Tintin. Haddock, c'est Hergé.
Tonnerre de Brest, attention, ça va partir à plat ventre. Bandit, pirate, gangster, assassin.
Renaud Nattier, je n'arrive pas très bien à cerner Haddock. C'est un aventurier ou c'est un casanier ?
Alors Haddock, c'est pas un aventurier, non. Je pense que son métier, c'était marin. Bon, effectivement, il a parcouru les mers, mais c'était sa profession. Mais je crois qu'il est plutôt
fondamentalement casanier. Hein. D'ailleurs, il est toujours très réticent quand Tintin veut absolument l'emmener au bout du monde. Et son rêve, son goût profond, je crois que c'est vraiment d'être tranquillement à Moulinsart, à siroter un petit whisky, éventuellement à lire un bouquin avec le chat siamois. Non, il est pas. Il devient beaucoup plus fréquentable, beaucoup plus bourgeois, je dirais. Hein, on le voit au début des sept boules de cristal avec un monocle, avec un cheval. Il change du tout au tout par rapport à l'épave, hein, qui est mal habillé, mal coiffé, qu'il est dans le crabe aux pinces d'or.
Charles-Antoine de Vibray, on est ici à Moulinsart.
On est dans le château du capitaine Haddock. Exactement. Qui est aussi chez Verny.
Oui. Accessoirement.
Voilà. Accessoirement. Je suis bien d'accord avec vous.
Vous pouvez me décrire le château ?
Moulinsart, en fait, est inséré, est enchâssé dans le château de Cheverny. Donc l'architecture de ces deux châteaux, c'est une architecture du début du XVIIe, qui est un petit peu l'introduction de l'architecture classique, de la quintessence architecturale française, qui est faite de sobriété et de symétrie. Ce qui est à gauche est à droite et réciproquement. C'est une merveille d'équilibre. Voilà, il y a en gros, un peu comme dans les dessins et dans les vignettes de Tintin, enfin de toute l'œuvre d'Hergé, il n'y a rien à ajouter.
Charles-Antoine de Vibray, Hergé est venu à Cheverny ?
On n'en sait rien. Je sais qu'il y a beaucoup d'albums où Hergé a restitué des ambiances qu'il n'a même pas partagées lui-même. Je crois qu'il n'est jamais allé au Sahara. Et quand vous voyez dans le crabe aux pinces d'or la façon dont il dessine le désert, on y est. À plus forte raison, je crois qu'il s'est jamais rendu au Tibet, je ne crois pas qu'il soit rendu dans l'Everest, et la façon dont il restitue les glaciers, le bleu des glaciers, l'ambiance des glaciers, quand on dit l'album de Tintin, on invite de prendre un manteau de fourrure tellement on a froid. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est extraordinaire.
Avançons. Moulinsart, c'est un phalanstère. Vous parlez même, Benoît Peters, de Sainte-Trinité.
Oui, alors le 3 chez Hergé, mais chez bien d'autres aussi, le 3 est une figure essentielle. Il n'y aurait pas eu le château de Moulinsart s'il n'y avait pas eu trois frères unis, trois parchemins à rapprocher, trois modèles réduits de navires. Et effectivement, je crois que les aventures de Tintin à partir des années 40 fonctionnent sur un modèle triangulaire avec Tintin, Haddock et Tournesol. Je crois que ce qui donne un prix particulier à Haddock, mais aux autres figures, c'est de ne pas être des créatures prévisibles. J'aime beaucoup le travail de Goscinny, et particulièrement Astérix, mais on peut dire quand même qu'on sait que Assurance Tourix voudra toujours chanter et qu'on l'en empêchera. On sait que Panoramix fournira la potion magique, mais pas Obélix, parce qu'il est tombé dedans quand il était petit, etc. Il y a des gimmicks. Et ces gimmicks sont presque absents des aventures de Tintin. Et quand Hergé disait, à la fin de sa vie, « Tintin, c'est moi, mais Haddock aussi, c'est moi, Tournesol par certains côtés, et les Dupont quand je suis stupide », il nous disait ça, de même que cette phrase que j'ai entendue de sa bouche dans la dernière interview que j'ai faite de lui quelques semaines avant sa mort, il me dit « si je vous disais que dans Tintin j'ai mis toute ma vie ». Et il ne faut pas l'entendre comme une formule de convention, plus on creuse les choses, plus on voit « oui, il a mis réellement toute sa vie dans Tintin ». Et par exemple, une scène magnifique avec Haddock, c'est dans Tintin au Tibet, où Capitaine Haddock, qui est plus un homme de mer qu'un homme de montagne, a dévissé. Il est au bout de la corde. Tintin le retient avec les mains de plus en plus ensanglantées, craignant de ne pas tenir. Et Haddock lui dit « il faut couper la corde ». Et Tintin dit « jamais », etc. Bon, il faut heureusement être sauvé. Mais c'est le moment où Hergé est en train de vivre dans sa vie personnelle, une crise conjugale, un déchirement, s'apprête à quitter sa femme. Et si vous le savez, il vaut mieux qu'il y en ait un qui souffre plutôt que les deux. Les deux ne peuvent pas tomber dans l'abîme, etc. Tout d'un coup, cette scène prend un relief et elle sonne juste. Parce qu'Hergé écrit d'abord et dessine d'abord pour lui-même. Il ne fait pas ça pour plaire, il ne fait pas ça parce que c'est ça qu'on attend de lui. Il fait ça parce qu'il veut croire à ce qu'il raconte, et pour y croire, il faut y mettre beaucoup de lui-même. Je pense qu'on n'a peut-être pas assez crédité Hergé de cette sincérité et de ce travail d'auteur et non pas de faiseur.
Mille sabords encore la marche. Il n'y en a donc pas un qui fera attention. Oh, le téléphone. Allô.
Allô.
Ah oui, Isidore Boulu n'est pas encore passé.
Charles-Antoine de Vibray, on est ici dans le château de Moulinsart. Un château qu'Hergé a un peu réduit tout de même.
Il en a retiré les deux ailes, ce qu'on appelle les pavillons latéraux, pour se concentrer sur la partie centrale et les corps de logis.
Ici, nous sommes face au grand escalier. Il y a bien une marche d'abîmée ici.
Alors, il y a bien une marche d'abîmée. D'ailleurs, elle est très régulièrement abîmée. Et comme l'escalier est utilisé en permanence, Isidore Boulu a beau se déplacer, la marche n'a jamais le temps de sécher. C'est une marche en fait qui est tout simplement fracturée. Le tailleur de pierre dévolu à l'entretien du château, qui s'appelle Isidore Boulu, est régulièrement appelé. Il travaille très bien parce que non seulement en fait il répare la marche, mais il y a tout un coffrage en bois pour justement qu'on évite de saccager un petit peu son travail. Et forcément, ça tombe toujours mal. Parce que bon. Et c'est au moment où c'est presque sec qu'à ce moment-là, Haddock et Tintin doivent quitter leur demeure. Ben forcément, comme il descend à toute vitesse, ben il oublie qu'il y a une marche qui est fraîchement recollée. Hop, et puis il n'y fait pas attention, il glisse et il se fait mal. Donc là, vous avez, on a repris sur la fameuse marche cassée donc de l'escalier. On a remis un petit décalcomanie. Et puis d'abord, en accord avec la Fondation Hergé, en fait, c'est le seul petit clin d'œil qu'on s'est autorisé en fait dans le château. Voilà.
Il n'y a que ça de vrai. Regardez autour de vous, partout la vie, les feuilles, les fleurs, les oiseaux, les insectes. Oh, et ces parfums subtils, Tintin.
Mais à mon avis, capitaine, votre air ne sent pas précisément le muguet par ici.
Hein, qu'est-ce que vous dites, mon air ne... Ah, tonnerre de Brest, vous avez raison. Oh, je comprends, voilà l'explication.
Cette décharge municipale, hein?
Mais oui, c'est là qu'on déverse tous les détritus, résidus de fonds de poubelle de la région. C'est infect. Et ce que je ne comprends pas, c'est que des gens soient attirés par cette planteur. Voyez-moi ces roulottes au bord de la route.
Des romanichels, sans doute,
oui. Aucun sens de l'hygiène, ces oives-là.
Benoît Peterson a beaucoup parlé, évoqué le racisme, la misogynie des Tintins. Qu'en est-il du capitaine Haddock? C'est un misogyne, c'est un raciste, c'est qui?
Dans les premières bordées d'insultes du capitaine Haddock, il y a des termes qui effectivement passent mal aujourd'hui, et ça fait même longtemps qu'ils passent mal, donc Hergé en a gommé un certain nombre. Je ne crois pas qu'il y ait de racisme chez le capitaine Haddock. C'est un personnage généreux mais parfois maladroit. On le voit dans Coquenstock avec les malheureux noirs qui sont enfermés à fond de cale et destinés à devenir des esclaves. Le dialogue ne réussit pas tout de suite. Avec les romanichels dans les bijoux de la Castafiore, c'est aussi quelque chose de complexe, hein, parce que la première réaction d'Haddock, c'est de dire « mais alors, il y a des gens qui vivent comme ça, dans cette saleté, comme si ces gens l'avaient choisi ». Et puis, quand ils découvrent qu'on les a parqués là, sur ce terrain, à côté d'un dépôt d'ordures, ils les accueillent immédiatement chez lui. Et en même temps, il va y avoir cette chose très belle qui est que ni Tintin ni Haddock, dans les bijoux de la Castafiore, ne parviennent à établir une véritable relation avec les Tziganes. Ils sont là, on les a accueillis, mais les deux mondes s'observent un petit peu en chien de faïence, avec un peu de méfiance. Et ça, c'est aussi très beau, parce qu'on est sorti d'un boy scoutisme premier d'Hergé, on montre qu'on peut à la fois accueillir et rester dans une distance ou une incompréhension. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de petites finesses. Après, Haddock va reprendre Nestor quand Nestor use de termes racistes ou méprisants par rapport aux Tziganes. Et Haddock, qui les avait tenus 20 pages plus haut, tout d'un coup est indigné quand il les voit dans la bouche d'un autre.
Monsieur !
Eh bien, Nestor, qu'avez-vous ?
Oh, monsieur, c'est terrible. Hein? Il y a là, dehors, enfin, dans l'allée d'honneur, monsieur, toute une caravane de bohémiens.
Hein?
Ah oui, il paraît que c'est monsieur qui leur a permis de s'installer ici.
C'est exact, Nestor.
Oh, mais monsieur, je n'ose comprendre.
Osez. Mais... Et vous allez mener ces braves gens jusqu'à la prairie qui borde la rivière.
Mais... En fait, que monsieur me pardonne, c'est bohémien, monsieur, c'est tous des vauriens, chapardeurs et compagnie. Oh, ces gens-là vont nous causer des tas d'ennuis.
Des ennuis?
Mais c'est certain, monsieur.
Comme s'il pouvait m'arriver encore des ennuis après que... Oui, mais... allez, Nestor, mais... occupez-vous d'eux.
Que je...
Hein?
Albert Algou. Parmi les jurons du capitaine Haddock, il y a indéniablement des jurons racistes, de mémoire comme ça, donc canaque, cannibale emplumé, quand ça s'adresse à des personnes à la peau foncée ou à la peau noire, donc indéniablement. Alors certaines ont été gommées, par exemple Fatmat prise unique, il s'adresse à une femme voilée, je crois que c'est dans Tintin au pays de l'or noir, c'est devenu Bayadère de carnaval. Alors Bayadère, ça n'a rien à voir avec le monde arabe, puisque c'était plutôt en Inde qu'il y avait des Bayadères, mais Bayadère de carnaval, c'est assez joli. Donc Hergé faisait quand même gaffe, il se corrigeait.
Espèce de bachibouzouk des garbattes, flibustier de carnaval, fourbitruc, fatmeute prise unique, moule à gaufre, technocrate, cyclotron, polygraphe, nyctalope.
Tintin au Congo, c'est la casserole qu'on accroche éternellement au basque d'Hergé, mais bon, il avait 22 ans sous la houlette d'un curé raciste, colonialiste, etc. Mais il s'est dépris de cela, c'est indéniable. Ça, on peut pas lui accrocher cette casserole toute sa vie. Ça m'énerve un petit peu, quoi. Puisqu'il prend la défense des Incas, il prend la défense des Tziganes, il prend la défense de Noirs musulmans, qui propose de les emmener à la Mecque. Donc, si ça est raciste ou islamophobe, je vais bien être pendu.
Renaud Nattier.
Haddock, il représente quand même un certain bon sens bien de chez nous, avec ses défauts, ses faiblesses. Je crois que ce qui caractérise le plus Haddock dans le personnage, en dehors de l'alcoolisme, c'est sa façon de parler. Hein. La richesse du langage de Haddock, c'est absolument extraordinaire. Et là, il est effectivement en dehors disons, du code linguistique. Hein. Je m'étais amusé d'ailleurs à imaginer, puisqu'on se dit toujours que Tintin, des fois, est un petit peu vieillot, anachronique, et ne parle pas aux jeunes. J'aurais bien imaginé un certain nombre de jurons actuels, dans le contexte politique actuel de notre société, qui auraient été très amusants dans la bouche du capitaine Haddock. Je pensais à anti-système, Brexit, à la crème de pudding, hologramme, roulette, glyphosate, pesticides, complotiste, capitaine de pédalo, hein, qui aurait été vraiment une insulte haddockienne, s'il en est, anti-vax, grand remplacement, macroniste de gauche, hein, bougre de psychothérapeute à la sauce lacanienne. Enfin, vous voyez, si on avait voulu faire un nouvel album de Tintin, on aurait pu ajouter, c'est actualiser un petit peu les jurons du capitaine.
J'ai jamais pu supporter ce cataclysme vocal et cette manie qu'elle a déclenché mon nom.
C'est tellement gentil à vous d'être venu jusqu'ici pour m'entendre gentil.
Oh non, alors ça, jamais de la vie.
N'ajoutez rien, grand flatteur que vous êtes. Ces femmes sentent ces choses-là. Cher capitaine Craddock.
Non, Haddock.
Albert Algou, est-ce que le capitaine Haddock cache sa timidité derrière la misogynie?
Il ne faudrait pas confondre sa peur de la castafiore avec de la misogynie, parce que je pense que même un mec pas du tout misogyne, à certains moments, peut avoir les oreilles blessées par les trilles ou la puissance vocale de la castafiore, dont j'ai démontré par ailleurs qu'elle, une des rares femmes de l'œuvre, n'en était pas une, puisque c'est l'ultime caste, c'est un castrat en fait. Peut-être le capitaine Haddock le sent, quoi. Mais là, il y a toute une symbolique sexuelle dans les bijoux de la castafiore. Il se fait piquer par le dard d'une abeille, elle lui retire le dard du nez, et puis on voit Tournesol, qui est fou d'amour, qui en pince pour la castafiore. Donc, le sexe est présent, l'air de rien, quoi.
Je vous souhaite la bienvenue à bord du Sherazade.
Elle est ici.
Encore ici, mon ami.
Sauf qu'il peut, on retourne sur le radeau.
Ce cher Tintin est mon brave Arok.
Arok? Enrôle, Madame Castafiole.
rock and roll.
La misogynie, je ne crois pas à une misogynie de Haddock. C'est un marin, c'est un célibataire par essence. Peut-être a-t-il eu des aventures féminines éphémères. Il ne semble pas, en tout cas, particulièrement obsédé par cela. On sait que récemment, plusieurs dessinateurs se sont amusés à construire la relation Haddock-Tintin comme un couple gay. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, qu'il y ait une composante homosexuelle dans cette relation, même s'il n'y a pas forcément de passage à l'acte, parce que ce n'était pas vraiment le genre de la maison, le genre d'Hergé des journaux où il publiait. Oui, ça enrichit plutôt encore l'histoire. Oui, c'est une forme de couple dont Tournesol et Nestor seraient les témoins bienveillants, comme Camus disait qu'il fallait imaginer Sisyphe heureux. On peut imaginer le capitaine Haddock comme un gay plutôt épanoui.
On se trouve devant le portrait du chevalier François de Haddock, donc l'ancêtre du capitaine Haddock. Donc on avait trouvé qu'il avait toute sa place dans là on est vraiment dans Moulinsart. On met à l'honneur ce portrait à cet endroit-là, dans un espace qui est véritablement dévolu là au chevalier François de Haddock, pour lequel le capitaine voue, il a bien raison, une certaine admiration et il y fait souvent référence.
Charles-Antoine de Vibray, vous pouvez me décrire le chevalier François de Haddock?
Le chevalier de Haddock, c'est le capitaine Haddock tout craché, en fait. Hein. En fait, on a un vaisseau de ligne, en fait, qui se retrouve derrière. En fait, il est appuyé sur sa longue vue. Donc, il est vraiment capitaine d'une marine royale. Il est complètement dans son rôle. Hein. Et puis, en fait, c'est assez amusant que son ancêtre, lui, après, soit également là, également dans la même marque, dans une marine, mais une marine marchande. Voilà. Mais en fait, tous les deux sont véritablement des marins, mais des marins de leur époque respective.
Je vous rassure, monsieur de Vibray, ces jurons ne vous sont pas adressés.
Bah non. Non, c'est vraiment, on est vraiment dans l'ambiance.
Une dernière question, Renaud Nattier. Quelle dernière nouvelle avez-vous de Haddock?
Un dessinateur belge qui s'appelle Kroll, qui est le dessinateur du soir, qui a imaginé les personnages aujourd'hui. Alors on voit Tintin très vieilli, qui s'ennuie, Tournesol est mort, Milou est empaillé, et Haddock est à l'EHPAD, est un peu gâteux, mais on pourrait imaginer, si un album nouveau venait à naître, qu'on reprendrait Haddock à l'âge où on l'a quitté dans Tintin et l'Alfart. Voilà, c'est une possibilité. C'est en 2054, a priori, que Tintin tombera dans le domaine public et qu'on aura le droit, à ce moment-là, de publier un nouveau Tintin. Peut-être qu'à ce moment-là, on en saura plus sur ce qu'est devenu le capitaine Haddock.
Albert Algou, quelle dernière nouvelle avez-vous du capitaine Haddock?
Alors, il n'est pas en EHPAD, il est toujours à Moulinsart. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même, parce qu'il ne connaîtra pas le sort atroce de certains de nos anciens. Bon, il vieillit indéniablement, quoi. Donc, il a renoncé à courir le monde. Tintin, il est plus à Moulinsart du tout. Donc, Haddock, il est seul. Donc, il doit errer dans la galerie de marine en caressant ses souvenirs, à savoir la figure de proue de la licorne, etc. Et il a une vieillesse paisible. Il lit beaucoup. Il lit beaucoup. Lui, il lisait assez peu. C'était plutôt Nestor qui lisait. Et Nestor a disparu depuis longtemps.
Dans ce même registre, et pour terminer notre voyage, quelle dernière nouvelle avez-vous eue du capitaine Haddock, Benoît Peters?
Alors, si je devais imaginer, après quelques morceaux d'enfance, le destin du capitaine Haddock, je le verrais survivre à Tintin. Et j'imaginerais la vie du capitaine Haddock, Haddock dont nous imaginons, oui, qu'il serait un grand vieillard pestant, un peu râlant, mais finalement réalisant un certain nombre de belles choses sur ses vieux jours. En tout cas, c'est quand même le personnage le plus attachant. Et je crois que quand on demande aux gens
très amateur de Hergé ou plus occasionnel. Le personnage qu'il préfère, unanimement, les gens répondent le capitaine Haddock. On a plus envie d'aller passer une soirée avec le capitaine Haddock que peut-être avec Tintin. Et puis avec Tournesol, la conversation serait un petit peu limitée parce que bon, il oublie de mettre son appareil auditif. Alors qu'avec Haddock, on est sûr d'une chose, on ne s'ennuiera pas.
Eh bien, mes amis, qu'en dites-vous, hein? Tout est bien qui finit bien, pas vrai?
Ah, c'est ce que j'ai toujours dit, moi! À l'ouest, à l'ouest!
Oui, bien sûr, mais je dis, tout est bien qui finit bien.
Ah, cette salle de marine très dirait bien, en effet, ou le nord.
Merci. Je voulais simplement dire que nos aventures s'étaient bien terminées.
Eh? Ah non, non, merci, ou non, jamais entre les repas, ou non?
Mais non, mille sabords, je dis, tout est bien qui finit bien! Tout est bien qui finit bien!
Ah, c'est plus sain! Ah, ça, vous avez raison, capitaine.
Oh, il est de plus en plus farfelu.
Ah oui, le moment est venu, mes amis. Oh.
Mais quel moment?
Mais le moment de citer le proverbe. Tout est bien qui finit bien.
C'était « À la poursuite d'Archibald Haddock », deuxième épisode, « Cap sur le château de Moulinsart ». Avec Albert Algou, auteur du Dictionnaire amoureux de Tintin, Charles-Antoine de Vibray, propriétaire du château de Cheverny, Renaud Nattier, auteur de « Faut-il brûler Tintin », Benoît Peters, essayiste, biographe d'Hergé. Extrait du feuilleton radiophonique « Les aventures de Tintin » d'après Hergé, adaptation Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisation Jean-Jacques Vierne. Coordination Christine Bernard, attaché de production Sylvia Favre, un documentaire d'Yves Aumont et François Test.
Vous pouvez retrouver cette émission sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris. Et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les léons, les noms du Dieu. Sublime décadence, la danse dépense, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui. Tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse mon lit.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
L'actualité vue par France Culture avec des intellectuels, des experts et des artistes.
Guillaume Erner.
Ce sont les matins de 6h30 à 9h.
Les matins de France Culture. Du lundi au vendredi à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Capitaine, je suis persuadé que Chang est vivant.
Et moi je vous dis, tête de mule, partez pour le Népal, partez pour Tombouctou ou pour Vladivostok, moi ça m'est égal, car vous partirez seul.
Après 6 albums de Tintin adaptés en feuilleton radiophonique, France Culture propose une manière inédite de faire vivre le petit reporter avec un spectaculaire concert fiction. Même si Tintin et Haddock gravissent les sommets de l'Himalaya, le véritable héros de cette aventure est le Yeti.
Je pars à sa recherche.
Tintin au Tibet avec la troupe de la Comédie Française, un podcast réalisé par Benjamin Habitant sur franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture vous propose de redécouvrir cette émission.
Nous sommes de la radio française.
La radio française.
Nous allons parler d'Amalia Rodriguez. Est-ce que vous pourriez mettre Radio Amalia?
Oui, bien sûr.